Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et aujourd'hui, on prend des nouvelles de l'Institut Chubry qui collecte la langue galaise essentiellement en Haute-Bretagne. Jeudi 23 janvier, l'association présentait une nouvelle base de données, ChubryDoc, c'est son nom, l'occasion de représenter l'ensemble des outils imaginés par Chubry, ainsi qu'une réflexion récente sur l'usage de l'intelligence artificielle pour mener un travail urgent de sauvegarde de la langue.
Notre association, elle partage avec d'autres structures le fait de vouloir revitaliser la langue galaise, donc le gallo, parlé dans tout l'est de la Bretagne, l'Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor et Morbihan. Alors moi c'est Bertrand Aubry, et je suis directeur de Chubry depuis 2007. Et nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est aussi pas simplement la revitalisation, mais c'est le respect des droits culturels dans le domaine de la langue. Donc nous, on est très portés sur le fait de faire du travail où on va amener, on va respecter la diversité de la langue au niveau local et du coup, surtout, respecter les personnes dans leur façon de parler. On n'est pas trop porté, par exemple, sur le fait de vraiment standardiser la langue à tout prix. Donc cette contribution aux droits culturels et à la revitalisation, on l'a fait surtout dans le domaine de la linguistique du gallo. C'est vraiment notre domaine spécifique à Chubry. Donc la linguistique du gallo, pour nous, ça va être entre autres d'aller collecter la langue auprès des gens qui le parlent de famille, auprès plutôt les personnes âgées. Ça va être de faire un travail de documentation. Ça va être après de mettre en ligne des données sous forme de base de données en ligne. Et puis comme d'autres associations, on peut être amené aussi à faire du travail plutôt de revalorisation de la langue, d'en parler pour aussi se réconcilier avec ces langues qui ont été mises de côté, qui ont été dévalorisées. Le projet, il a démarré en 2007, à un moment où on se disait sur le gallo, il manque vraiment une structure qui rassemble de la documentation et entre autres qui aide par exemple les chercheurs universitaires à faire de l'étude linguistique, ou qui aide des gens qui ont des besoins de traduction à avoir un service qui leur propose, par exemple, le nom des communes pour faire des agendas, par exemple, de vie culturelle. C'était ça dans les premières années. Et donc, pendant longtemps, on va dire de 2007 jusqu'à 2020, je dirais que c'est pendant trop longtemps, on a été seulement l'équivalent de deux équivalents temps plein. Donc, on s'est beaucoup concentré d'abord sur le collectage, avant de pouvoir aborder d'autres choses comme des bases de données en ligne et tout ça. Alors, il y a quand même une phase de transition, 2016-2019. 2016, on a mis en ligne notre premier outil en ligne, principal outil en ligne, qui était une base de données de nom de lieu, Chubandreux, où on trouve aujourd'hui au moins pour chaque commune une forme en gallo, chaque commune de la Haute-Bretagne, voire aussi des communes périphériques, Bretagne bretonnante ou en Maine et en Joux. Et puis, en 2019, on a ouvert une autre base de données qui s'appelle Chumétive. Et là, c'est du vocabulaire. Donc, ce n'est pas un dictionnaire classique. C'est plutôt du vocabulaire où on va dire dans une fiche, tel mot, on l'a trouvé, il vient de tel document, ça veut dire ça. Éventuellement, on va mettre la phrase dans le contexte et tout ça. Et la traduction. Voilà, c'est les deux principaux outils qu'on a mis en ligne. Et donc, pour revenir aux moyens humains, donc on est passé d'une longue période, on était à deux équivalents temps plein. Aujourd'hui, on est six personnes sur l'équivalent de quatre équivalents temps plein. Là, ce qui permet du coup d'avoir une équipe plus riche en compétences. Donc avec entre autres Anne-Laure qui est arrivée en 2021, donc sur la documentation. On est aussi maintenant un chargé de communication qui nous aide à valoriser nos ressources en ligne, les différentes choses qu'on a en ligne. Donc on a une équipe un peu plus étoffé. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est aller encore plus loin, c'est avoir du personnel vraiment formé en linguistique, formé en ce qu'on va dire en ingénierie linguistique, c'est-à-dire tous les aspects informatiques appliqués à la langue, par exemple.
Anne-Laure Vétillard, documentaliste à l'association Chubry, depuis 2021.
C'est quoi le cœur de votre métier de documentaliste ?
Alors, dans un premier temps, c'est de séquencer tout le fruit du collectage. donc de le décrire pour pouvoir retrouver tout ce qui s'est dit durant les collectages. En gros, il y a 570 enquêtes à Chubry, donc on est parti d'un séquençage minimum du fait du nombre du moyen, hein, des moyens humains. Et voilà, là, on a renseigné déjà toute l'Ille-et-Vilaine.
Et qui ont été menées sur quelle période ? Enfin, ça, certains peuvent remonter à assez loin.
2006.
Le dernier sur lequel vous avez travaillé, pour donner un exemple ?
Le dernier collectage que moi-même j'ai réalisé, en fait, qui était à Guignin, je l'ai séquencé dans la foulée parce que du coup, j'ai été au bout de la chaîne documentaire, on va dire.
Ah, en compagnie de qui ?
Donc c'était en compagnie d'Armand Bayon qui demeure à Guignin et de Raymond Chouminel en fait qui ont eu la gentillesse de nous faire partager leur savoir. Alors Chubrydoc, c'est un catalogue partagé qui a pour but de faciliter l'accès aux documents en galop ou sur le galop à toute personne intéressée. Donc pour ce faire, il renseigne la présence de documents issus de structures multiples. Ça peut être de bibliothèques, des associations qui font la promotion et la sauvegarde du galop, ou bien les archives municipales, enfin tout type de structures à la fois publiques ou associatives. Ça peut aussi référencer des données qui viennent directement en fait, de personnes physiques, individuelles, qui auraient des données également à transmettre, à partager.
Alors le projet est d'abord venu de nos besoins internes en fait, au début, pour être vraiment honnête. On n'a pas tout de suite pensé aux besoins externes. Le besoin interne, par exemple, c'était de se dire, on a fait des enquêtes, donc par exemple, à telle année, je ne sais plus quand, mais bon, voilà, on avait peut-être déjà 200, 300 enquêtes. Ça commence à faire un petit volume. Et puis, ce n'est pas toujours les mêmes enquêteurs qui font le travail. Donc, imaginons, on a rendez-vous en enquête la semaine d'après, et on se dit, pour bien parler avec les gens que je vais interroger, ce serait bien que je connaisse un peu le parler du coin. Par exemple, voilà, si c'est Jessica qui est plutôt du Morbihan, et sinon elle va faire une enquête dans le nord du 35, c'est pas tellement à parler qu'elle connaît. Donc en fait, ça va être plus facile pour elle si elle a accès à des documents, donc par exemple à des enquêtes qu'on aurait déjà faites, ou à des ouvrages où il y a un ouvrage sur telle commune du nord du département, et puis il y a un petit lexique ou un texte en galop. Mais en fait, avec que d'abord nos bases de données Excel, c'était pas toujours facile de trouver ça. Parce que, alors, ça veut dire, oui, on va éventuellement chercher dans la base de données Excel la commune où on va. Il n'y a rien, ok. Ou alors après, on est obligé de chercher une carte. On va dire, la commune à côté, est-ce que j'ai quelque chose ? Non, j'ai rien. Bon. Là, l'outil qu'on met en place, c'est un outil qui va nous permettre, progressivement, c'est pas tout de suite, mais de se dire, je veux telle commune. À 5 km, il y a telle commune où il y a des documents, etc. Donc ça, par exemple, c'était un besoin qu'on avait pour préparer des enquêtes. Autre chose, c'est on a une commande de traduction d'une commune ou d'une asso locale ou d'une communauté de communes. Et nous, notre démarche, c'est pas de rendre un galop standard dans ce cas-là, c'est plutôt d'essayer de rendre une traduction. Ça va respecter le parler du coin, parce que l'idée, c'est d'aider les gens à se réconcilier avec leur parler. Cela, c'est pareil. Le mieux, c'est de pouvoir consulter soit des enquêtes qu'on a faites, soit des documents qui sont recensés. Donc ça peut être des documents qu'on a même à Chubry, parce que des fois, on n'y pense pas tout de suite qu'on a ça. Ou ça peut être des choses qui sont en ligne, dans des archives, parce que c'est numérisé. Le glossaire de Plechatel de Georges Dautin, il est numérisé depuis quelques années. Je crois que c'est sur Gallica. Donc là, l'outil, il va nous aider à faire ça. Et puis en fait, petit à petit, on s'est dit, il y a des besoins externes. Je vais parler d'un exemple que je connais bien. C'est, par exemple, moi, j'ai accompagné une doctorante qui faisait un travail sur la syntaxe du galop, sur un point très précis qui est la double négation en galop. C'est une question de syntaxe en galop. C'est une Mexicaine qui était à l'Université de Nantes. J'en ai parlé en particulier après, quand elle a présenté sa thèse, quand elle a soutenu sa thèse en jury en 2021. Je lui ai dit, qu'est-ce qui pourrait aider des gens comme toi qui font un travail de linguistique à l'université, qu'est-ce qui pourrait aider à ce que ça se passe mieux, en fait ? Il m'a dit, un des gros problèmes que j'ai rencontrés, c'est que c'était difficile de repérer des documents en galop, de repérer des documents sur les galops, ou surtout sur la linguistique du galop. Donc là, l'idée sur Bridoc, c'est on a déjà rentré des articles scientifiques, on a des lexiques et tout ça. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, des chercheurs même en Argentine, en Corée du Sud, parce qu'il y a des linguistes qui travaillent sur le galo, n'importe où, au Japon, des gens, ils vont avoir accès à la documentation en ligne, sous réserve qu'ils soient francophones, parce que la plupart des choses, ça se passe par le français. Et potentiellement, ça va répondre aussi à des besoins de toutes sortes de gens, des gens qui apprennent le galop, des gens qui enseignent le galop dans leur classe, voilà, toutes sortes de gens.
Est-ce qu'on peut essayer de décrire à quoi ça ressemble quand on se connecte sur ChubriDoc et comment est-ce que ça fonctionne pour mener sa recherche en ligne ?
On arrive en fait sur une interface qui, elle, s'apparente à l'interface qu'on peut avoir de notre bibliothèque. Sauf que lorsqu'on va faire une recherche, là, on va voir qu'il y a plusieurs sites qui peuvent avoir le même document et voir lequel est au plus près de chez nous en fait. Donc ça, c'est un point. Après, il y a toute une démarche de recherche qui peut être thématique. En fait, comme c'est un logiciel qui va être bilingue, à la fois français et galo, à travers des mots-clés, en fait, on va pouvoir accéder à nos résultats de recherche, à ce qu'on attend. Et autrement, on a tout un volet sur la recherche géographique. C'est très important pour nous, en lien avec la variété dialectale du galo. Donc cette porte d'entrée géographique, elle peut être soit sur une zone, ça peut être autrement sur une recherche départementale, communale. Par exemple, même sur les anciens noms de communes, en fait, on aura aussi référencé ça, ou via des grands hameaux qui, eux, concernent les anciennes trêves paroissiales.
Ça renvoie vers des documents physiques, mais aussi possiblement numérisés.
Alors, on a un fond de documents physiques et numérisés. Donc, soit on se réfère à la structure qui possède le document, et à ce moment-là, on peut les contacter pour aller consulter le document physique, ou autrement, pour les documents numériques qui sont accessibles en ligne.
Et vous avez une idée de combien de références ça représente pour le moment ?
Alors, c'est une interface qui sera toujours en évolution, en fait. Là, on a rentré à peu près 1000 documents, mais c'est une infime partie de la ressource en galop, et c'est bien ça qu'on cherche aussi à mettre en évidence, c'est toute cette richesse, et comment on peut la retrouver au sein du territoire de Haute-Bretagne, en fait.
On en a déjà cité, mais est-ce qu'il faut en citer d'autres, des partenaires ? On a cité les archives, Gallica.
Oui. Alors, on travaille de concert avec Bretagne Culture Diversité. Donc, on sera ce qu'on appelle moissonné. Les données qu'on rentre sur ChubriDoc seront intégrées à Bretagna. On travaille aussi de concert avec Dastum. Voilà, les associations qui ont du fond et qui parfois sont un peu méconnues. Donc, par exemple, je pense à la Grange Agoule qui est à Parcé, la maison du patrimoine oral, qui possède un fonds assez conséquent, à la Bouesque, qui est aussi une association qui possède du fonds en galop. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, en fait, et qui ne sont pas forcément tout le temps mis en valeur, ou du moins leur fonds. Et c'est ce que va aussi essayer de valoriser chez Bridoc.
On évoque peut-être les autres outils qui existent déjà chez Chubri.
Alors, je pense à plusieurs choses. Donc, il y a aussi, en plus des dictionnaires en ligne dont j'ai parlé, des bases de données linguistiques, on a aussi des ressources qui peuvent aider des gens qui ont envie d'écouter du galop. Donc, par exemple, on a dans l'onglet du site qui s'appelle Ressources documentaires. Donc, on a à la fois un renvoi vers justement chubridoc.bibli.fr avec cette base de données qu'on vient d'ouvrir. Mais on va aussi trouver, par exemple, des vidéos coproduites avec Bretagne Culture Diversité dans le cadre de la chaîne Deta Ama ou Deta Yamai. Donc là, ça va être des extraits d'enquête. Alors, ça peut être des fois des archives qui durent trois quarts d'heure, une heure. Donc, ces entretiens tout entièrement en galop. Donc là, il n'y a pas de transcription, il n'y a pas de traduction. Mais par contre, ça peut permettre vraiment d'entendre du galop sur un sujet donné. Ça peut être comment on fait la galette ou comment on cultive le sarrasin. Ou voilà. On peut trouver aussi des ressources un peu analogues. Là, c'est des podcasts qu'on a construits. Donc, par exemple, il y a une série de podcasts qu'on avait coproduits avec Radio Laser et une autre radio, j'ai oublié, mais qui était à Vitry, qui a disparu depuis. C'était un projet, je crois que c'était 42 chroniques, où on avait à la fois fait de la vulgarisation sur le galop et donné des extraits d'enquêtes orales. Donc voilà, donc en ligne, on va trouver par exemple une transcription de quelques passages, c'est plutôt du lexique. Et là, récemment, on a mis en place Café Séreux. Café Séreux, c'est un projet assez voisin, mais un peu différent. Où là, on choisit des extraits d'enquête orale à travers toute la Haute-Bretagne. Il y a une petite intro en français, il y a l'extrait d'enquête. Et sur notre site, on a une transcription intégrale du petit passage. Hein, c'est très court, mais en tout cas, il y a une transcription complète et une traduction complète. Donc ça, des gens qui ont un peu de galop dans l'oreille, ça leur permet d'aller plus loin et puis du coup de découvrir le galop de telle personne, de tel coin.
Pour recueillir le galop pour Chubry, Jessica, t'as bu le café chez Marcel Labbé. C'était à Ploreg sur Arguenon en 2022. Je crois que vous avez ben balos, mais deux cas que vous avez causeux.
Alors, tu sais, nous étions dans la série des surnoms. Continuons avec celle de la Chardronnette. C'était une marchande de poissons de Jugon-les-Lacs. Marcel en profite pour nous donner le nom de poisson et de crustacé en galop. Allez, frais, le paysan !
Je vois Jugon. Alors, je te dis crap, par exemple. Alors, je te dis maquereau.
Et après, on a d'autres projets, mais c'est un peu trop tôt pour en parler, d'autres projets de base de données linguistiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, on est pas mal sollicité pour vraiment un sujet d'actualité, c'est-à-dire c'est la contribution, on va dire, des technologies linguistiques à l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, là, en ce moment, on a plusieurs chercheurs qui nous ont sollicités parce qu'ils veulent travailler sur ce qu'on appelle donc, le traitement automatique de la langue. Dans le cas de langues qu'on appelle peu dotées, c'est-à-dire qu'on peut de corpus qui peuvent aider l'intelligence artificielle de se développer. Et eux, ce qui les intéresse, par exemple, c'est en particulier les deux chercheurs avec qui on est en contact en ce moment, c'est de développer de la reconnaissance de la parole. Donc, eux, ils sont intéressés pour avoir des bouts d'enregistrement, donc ça peut être juste au début 2 heures d'enregistrement de collectage, et la transcription. Et après, eux, ils vont entraîner les machines pour voir si, après, on remet une nouvelle enquête. Est-ce que leur outil va permettre de faire une transcription automatique? Et nous, c'est un projet qui nous intéresse beaucoup parce que potentiellement, en dehors d'autres applications comme la transcription automatique de vidéos, par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a, on a vu tout à l'heure, on a parlé de 570 enquêtes. Potentiellement, on a plein de données lexicales là-dedans. Sauf que pour le moment, on fait des transcriptions à la main, ça passe un temps fou. Si on a un outil qui nous permet déjà de faire une transcription qui est peut-être brouillonne parce qu'il y a plein d'erreurs, mais déjà, on peut corriger petit à petit, on aura peut-être de la reconnaissance de la parole plus efficace. Potentiellement, si on croise ça avec d'autres outils, par exemple un outil qui permettrait de repérer si dans la transcription, on a des mots qui ne sont pas encore dans une base de données lexicale, on peut se dire, tel mot, on n'a pas encore, on le rentre. Voilà, donc potentiellement, en fait, c'est des nouvelles technologies qui peuvent d'un côté être inquiétantes pour certains aspects, mais aussi qui peuvent, du coup, accélérer tout le travail de restitution des données, en fait. Parce que nous, on a une priorité, c'est vraiment d'enquêter. C'est urgent. Là, on voit, il y a une enquête récemment, qui vient de sortir, financée par la région et faite par TMO Région. On voit qu'on a vraiment une chute du nombre de locuteurs. On était dans les 190 000 en 2018. Et là, je dis ça de mémoire, je crois qu'on est dans les 130 000 de gens qui parlent plus ou moins galop. Hein, c'est du déclaratif, mais. Donc, il y a vraiment une chute de locuteurs. Et on sait en particulier dans des choses comme les noms de lieux, les noms de famille en galop. C'est un corpus, si je parle en linguiste, c'est du vocabulaire qui est en train de partir. Si on ne le fait pas les enquêtes maintenant, on ne pourra pas le faire après. Donc là, il y a une urgence. Donc nous, depuis le début, en fait, il y a des choses où on fait un peu au kilomètre. C'est-à-dire, même si on ne le valorise pas tout de suite, au moins on a l'enregistrement. Mais ça reste qu'il y a aussi besoin, pour se réapproprier la langue, il y a besoin de commencer à traiter de manière plus systématique et plus forte pour que les gens qui veulent parler galop, ils aient de la matière, quoi.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.